Tristan Bernard, touriste. Ce vieux monsieur à la tête trop grosse ressemblait énormément à sa femme. Tous deux avaient le masque démesurément large et des yeux débordants. Ils étaient de la même taille, pas assez courts pour être considérés comme des nains et pour avoir la gloire d'être des phénomènes. Le monsieur avait encore sur la tête des cheveux épais et rudes, et qui n'avaient pas blanchi. Il était clair qu'à un moment donné, la nature ne s'était plus occupée de cet être inintéressant. Elle lui avait laissé ses cheveux noirs. La dame était noire aussi, mais ses lambeaux, ses torsades étaient d'emprunt. Tous deux étaient vêtus tristement et solidement de vêtements aussi inusables qu'eux-mêmes. Ils habitaient dans un appartement très cher, dont 15 chambres sur 18 n'étaient pas meublées. Mais la salle à manger, la chambre à coucher et un des salons étaient remplis de vieux meubles d'un grand prix, achetés d'un seul coup. Le monsieur avait fait sa fortune dans le commerce. Comment avait-il pu gagner 100 francs? Il semblait avoir au juste l'esprit d'initiative, le génie entreprenant d'un soliveau. Mais de l'argent et de l'or, par des lois mystérieuses, étaient venus s'agglomérer et s'amonceler autour de lui. Quand il eut gagné plusieurs millions, il alla trouver son notaire, à qui il put dire juste les paroles nécessaires pour exprimer qu'il voulait vendre son fonds. Le notaire lui trouva un acquéreur. Il déménagea et vint habiter un très beau quartier. Il n'avait l'air ni heureux ni malheureux. Il était probablement très heureux. Il acheta une forte limousine de bonne marque. On lui indiqua un bon mécanicien, et le seul ennui qu'il pouvait éprouver, et fut le jour de leur première sortie, quand il fallut dire au mécanicien où il voulait aller. Il n'avait pas la moindre connaissance géographique. Quand on prononçait devant lui les noms de Melun ou de Versailles, il les reconnaissait simplement. Les notions étaient rangées pêle-mêle dans son esprit, comme dans un dépôt de ferraille. Ça s'y trouvait, voilà tout. Le mécanicien lui proposa Rouen. Il n'avait aucune raison pour refuser. Ils partirent un matin à 8 heures. Le vieux monsieur était installé à côté de sa femme dans la voiture. Ce fut encore ce jour-là une image très spéciale du bonheur à deux que celle de ces vieillards silencieux qui regardaient droit devant eux et dont le visage restait impassible. Ils tournaient la tête machinalement quand ils entendaient un coup de trompe ou regardaient en l'air quand on passait sous un pont. Le mécanicien les amena dans un restaurant de Rouen, où le vieux commanda le déjeuner d'une voix lasse et tranquille, après avoir consulté du regard le regard toujours consentant de la femme. Le mécanicien va les reprendre à 3 heures. Puis ils rentrèrent à Paris, après avoir eu une panne de pneus. Entre Vernon et Bonnières, la voiture s'était arrêtée. Le mécanicien était descendu et leur avait dit « Oh, le pneu arrière qui fiche le camp !» Le vieux monsieur avait incliné la tête, la dame aussi. Alors ils étaient restés dans la voiture. On avait haussé le tout avec un cric et le mécanicien avait procédé avec diligence à la réparation. Quelques jours après, le mécanicien les emmena à Fontainebleau, puis à Meaux, Et comme la belle station saison arrivait, il leur demanda un jour: « Monsieur, madame, n'aurait-il pas l'idée de faire un grand voyage en France ? Et l'on pousserait jusqu'en Italie ?» Ils acceptèrent. Le mécanicien leur demanda 3 jours pour mettre la voiture en état. Ce mécanicien adorait l'auto. Il aimait sincèrement la nature et se grisait du grand air. Mais il se disait que ce voyage serait plus agréable s'il emmenait à côté de lui, sur le siège, une petite amie. Il avait donc demandé à monsieur et à madame d'emmener sa femme avec lui. Le monsieur accepta d'un petit hochement de tête, après avoir recueilli chez sa femme un avis favorable, également silencieux. Ce fut un voyage charmant pour le mécanicien et sa jeune compagne. Ils avaient à l'œil une bonne voiture. Ils étaient bien logés et confortablement nourris. Ils avaient fini par ne plus faire attention aux deux véritables colis que renfermait le fond de la limousine. Ils parcoururent les nords de la Loire, puis le plateau central, puis le Dauphiné, puis la Savoie, passèrent en Piémont, en Lombardie, en Vénétie. Le mécanicien se contentait, à l'arrivée dans chaque ville, de dire à ses maîtres: « Ah, nous voici à Turin, ou à Milan, ou à Venise. » Il allait toujours dans le meilleur hôtel, mais très gentiment prenait toujours pour monsieur et madame la meilleure chambre. Il mangeait à une petite table à part avec sa petite amie. Le dîner fini, il allait trouver monsieur et madame et leur disait s'ils avaient besoin, envie de se reposer. On ne voyage pas demain, n'est-ce pas, monsieur et madame? Et monsieur répondait, dans ce cas, non, pas demain. C'était le mécanicien également qui fixait les heures de départ. Il s'était rendu compte, au bout de très peu de temps, de la barbarie qu'il avait à faire, relever de trop grand matin ces personnes âgées. Aussi partait-on vers 10 heures, tranquillement, et faisait-on de courtes étapes. La voiture se comportait bien. Elle absorbait de l'essence à sa suffisance. De temps en temps, on procédait à une petite réparation, pas trop généreuse. On revint à Paris, par le midi de la France, en passant par un village du Languedoc, où la petite amie du mécanicien avait sa vieille bonne mère. L'hiver fut moins agréable. Le mécanicien n'aimait pas le travail de veille de ville. Aussi expliqua-t-il à monsieur et à madame que la voiture fatiguait beaucoup dans le service de Paris. Il leur enseigna une excellente occasion, un coupé à 2 chevaux qui fut remplacé pour la plupart des courses. La limousine sortait de temps en temps, tous les 5 à 6 jours, pour ne pas en perdre l'habitude. Il arriva que, pendant cet hiver, le mécanicien se brouilla avec sa petite amie. Mais aux approches du printemps, il fit la connaissance d'une autre demoiselle. Il annonça donc à ses patrons qu'il avait divorcé et s'était remarié. Puis il proposa une longue excursion d'été en Belgique, en Hollande et sur les bords du Rhin, car sa nouvelle amie était blonde, elle aimait la rêverie et les paysages allemands.